Vous avez regardé, comme tout le monde, j'imagine, les images de Marseille cet après-midi.
J'ai regardé là tout de suite parce que j'ai travaillé tout l'après-midi, oui.
Vous avez travaillé.
Et jour férié, voilà. C'est fait pour ça.
Bah, c'est le moment où on peut travailler tranquille, en fait.
Bon, on va revenir, ça tombe bien, parce qu'on va revenir sur les images fortes de la journée, l'arrivée de la flamme olympique, donc dans le Vieux-Port de Marseille, après 12 jours en mer, à bord de ce magnifique trois-mâts, le Bélème, qui venait de Grèce. Très beau spectacle qu'on va pouvoir regarder et admirer à nouveau avec ce reportage signé Pierre-Olivier Dantan et Léa Berthaud.
Le chaudron olympique allumé par la superstar marseillaise, le rappeur Jules, sous les yeux d'un vieux port euphorique. Quelques minutes plus tôt, c'est le nageur Florent Manaudou, puis l'athlète paralympique Nantenin Keita, qui transmettait à l'artiste la précieuse flamme olympique.
Je te la confie.
Ce soir, le Bélème a réussi son entrée dans le Vieux-Port. 150 000 personnes attendaient l'arrivée de la flamme, le tout accompagné d'un show spectaculaire offert par la Patrouille de France. Après une traversée de 12 jours depuis Athènes, le mythique trois-mâts a fait son entrée en fin de matinée le long de la baie marseillaise. Une parade maritime majestueuse, accompagnée du son des klaxons et cornemuses, passant le long des plages du Prado et de celles des Catalans. Tout l'après-midi, ces centaines de bateaux ont escorté le navire. Tout était mis en place pour offrir un spectacle mémorable aux yeux du monde entier.
C'est vraiment super, on participe à quelque chose d'absolument extraordinaire là aujourd'hui. C'est l'anniversaire du bateau puisqu'il était aux Jeux Olympiques de Paris en 1900. On est en 2024 et Lulu reparticipe aux Jeux Olympiques. Alors on peut accepter quelques difficultés d'organisation pour nous parce qu'il faut envoyer les voiles, il y a eu du vent, il n'y a plus de vent maintenant. C'est génial, on a des difficultés qu'on aime bien voir avec ce bateau.
Sur le Vieux-Port, ils étaient près de 50 000 à suivre la parade avant d'assister au débarquement et à l'arrivée de la flamme sur le sol français.
J'ai l'impression de vivre un moment vraiment particulier. La flotte est vraiment très impressionnante et c'est assez émouvant. Ouais.
Moi, je suis descendue de Paris exprès pour venir à Marseille pour la voir, donc c'est une grande émotion en fait.
C'est beau, hein,
c'est magnifique. Aujourd'hui, il fait un temps superbe, toute la parade est magnifique, tous les petits bateaux, les petits catamarans, c'est magique.
Aujourd'hui, Paris et Marseille ne faisaient qu'un, tant la cité phocéenne a fait de cette arrivée du Bélème un moment historique de ces Jeux Olympiques.
Voilà pour ces belles images. Antoine Forestier, vous avez vécu, vous avez eu la chance de vivre cet événement au plus près. Vous êtes sur le Vieux-Port, toujours. Alors, Benoît Paillon, ce soir, a fait le point. Il parlait de 230 000 personnes rassemblées sur le Vieux-Port. On ne sait pas si c'est un chiffre marseillais un petit peu gonflé ou s'il y avait vraiment 230 000 personnes, mais le Vieux-Port était noir de monde. C'est toujours la fête derrière vous, Antoine.
Historique. C'est quelque chose.
Oui, je ne les ai pas comptés, les Marseillais. Ça va être difficile de répondre à votre question, mais oui, plusieurs dizaines de milliers, ça c'est sûr. Et oui, c'est toujours la fête ce soir. Ça a démarré tôt ce matin, ça continue. Il y a le concert de soprano en ce moment. Je suis aux côtés de Eric et Michael. On a vécu des bons moments ce soir et toute la journée. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette journée incroyable à Marseille?
Ce qui m'a marqué, c'est tous les Marseillais qui étaient là dans la rue. On était tous mélangés de différents quartiers. Et voilà, les gens dans les rues, plein d'animation. C'était vraiment super, quoi.
On entendait parler de ce bateau depuis plusieurs jours. Vous l'avez vu en vrai, je crois que vous étiez devant la mairie là ici, plutôt bien placé. Qu'est-ce que vous retenez comme image?
Ben, j'ai eu la chance d'être sur le balcon de la mairie. Il y a eu du coup la patrouille de France qui a fait pas mal de, enfin qui a lâché des légers. Il y a eu tous les Marseillais qui ont acclamé le bateau quand il est arrivé. Et c'était vraiment incroyable, quoi. Vraiment très marquant et voir tous les gens rassemblés et très heureux de voir la flamme arriver, amenée par Florent Manaudou et allumée par Jules. C'était quand même.
Vous y attendiez à ça?
Non, c'était un peu une surprise. Il faut dire que la journée avait vraiment bien commencé avec l'élimination du PSG. Et en vérité, voir Jules qui a réuni tous les Marseillais, qui a réuni tout ce peuple marseillais, bah, c'était incroyable.
Merci. Vous étiez en mer lorsque le Bélème est arrivé. Ouais, ça vous a plu ce spectacle? Vous êtes venu de Paris en plus.
Je suis venu de Paris et on était en mer côté sud de Marseille. Et on a fait la navette avec le Bélème juste à côté pendant 2h30. Magnifique. Ambiance extraordinaire et ça va être un souvenir de malade, je pense. Marseille a organisé une super fête. Patrouille de France, concert de soprano. Et franchement, une super, super ambiance.
Quand on parle des Jeux Olympiques ces derniers temps, on parle beaucoup de polémiques, de choses qui ne fonctionnent pas, d'inquiétudes par rapport à ce qui va se passer à Paris. Quand vous voyez la fête démarrer ici à Marseille, vous vous dites qu'on est un peu râleurs, les Français, et que finalement, faut en profiter de cet événement ou pas?
Oui, on est trop râleurs. Et je pense que là, au niveau de la sécurité, c'était top. Pas d'incident. Et je pense qu'à Paris, ça va être top aussi. Donc voilà. Que dire d'autre à part que c'est la fête et génial.
Un mot sur le concert, il y avait Alonso qui a démarré, là c'est Soprano encore qui est en cours. Il met le feu, hein.
Ouais, Soprano, tout le monde l'attendait. Donc Alonso a donné le feu avant et Alonso et Soprano derrière. Vraiment super. Juste faire un bisou à ma fille qui est sur Paris.
Très bien, c'est passé. Merci beaucoup, merci à vous. La fête qui continue avec le concert de Soprano qui a pris un petit peu de retard parce que pour tout vous dire, au tout début, il y avait tellement de monde ici sur le Vieux-Port qu'il y a eu quelques désordres. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. Le concert qui se poursuit avec, oui, encore des dizaines de milliers de personnes qui assistent au concert de Soprano qui vraiment met le feu depuis tout à l'heure.
Merci beaucoup Antoine avec Audrey Allos à la caméra. Et le bisou est passé, le message est passé. On accueille sur ce plateau Ludovic Franceschi. Bonsoir à vous, on est ravis de vous avoir. Vous êtes éboueur à Paris. Vous avez 500 000 abonnés, c'est ça, sur TikTok?
Oui, on y arrive avec Instagram. On y arrive avec Instagram.
Donc, vous êtes peut-être l'éboueur le plus connu de France. On peut dire ça comme ça. Et si vous êtes avec nous ce soir, c'est parce que vous allez porter la flamme.
Oui.
Vous faites partie des heureux élus,
oui,
qui porteraient la flamme le 15 juillet à Paris. Déjà là-dessus, sur ces images, ça vous a mis un peu dans l'ambiance qui s'est passée aujourd'hui?
J'en ai les frissons. C'est majestiquement beau. Et puis Marseille, c'est ma ville de cœur, il y a ma maman. Je t'embrasse d'ailleurs.
Ah ben là encore, il y a trop d'amour, c'est beau.
Non, vraiment, c'est la fête, c'est magnifique. Et je suis ravi que Marseille accueille cette flamme. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à. Et je suis persuadé que tout va bien se passer. Et on est prêts, hein.
Pour l'instant, tout s'est bien passé en tout cas.
C'est la première
cérémonie,
trêve olympique.
C'est grandiose.
La première trêve olympique, c'est Marseille et Paris qui s'entendent pour participer à la même fête. Oui, pour l'instant, ça se passe bien. Et cette déferlante populaire avec trop de monde, puisque visiblement, il y a eu quelques débordements, bah, ça veut dire que c'est peut-être ça qui nous attend. C'est trop de succès pour ces Jeux. Alors qu'il y a quelques semaines, on disait, vous allez voir, ça
n'intéresse personne.
Oui, mais dans chaque département, ouais, dans chaque commune où il y aura un porteur ou une porteuse de flamme qui vont passer, les gens vont venir, les gens vont vouloir voir passer cette flamme, l'approcher. Et ça, c'est quand même quelque chose de formidable. Les émotions partagées ensemble, il n'y en a quand même pas énormément. Il y en a quand on a des grandes victoires sportives. La Coupe du Monde 2018, la dernière. Mais ça dure 2-3 jours. Là, ça va durer du 8 mai au 8 septembre, la fin des Jeux Paralympiques. 4 mois, c'est énorme.
Dès la sortie de Marseille, ça va être un peu moins spectaculaire parce qu'il y aura quand même une telle bulle de sécurité autour de la flamme, avec une centaine de policiers qui l'entourent. Ça risque d'être quand même beaucoup plus un vrai cortège à la gloire de notre police qui fait très bien son boulot.
Le Tour de France, c'est pareil. Hein.
Non, mais là, les gens regardent. Il y a une personne qui court avec ne serait-ce que 15 personnes du GIGN qui l'entourent.
Donc on va avoir quelque chose assez... pour protéger cette flamme parce que
il y a quand même des menaces.
Et ça fait partie du spectacle, les athlètes du GIGN qui courent.
Ludovic Franceschi, vous vous attendiez à avoir autant de monde? Parce que c'est vrai qu'il y avait quand même un petit pessimisme ambiant très franco-français, faut le dire, autour de ces JO. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a juste vu des Français hyper enthousiastes.
Alors moi, je dirais 300 000 personnes.
Encore plus que les 230 000 que Benoît Payan.
Et je voulais juste préciser qu'il y a des Parisiens qui m'ont dit qu'ils voulaient partir pour les JO. Et finalement, quand ils ont su que j'allais porter la flamme, ils vont rester et voir mon passage. Alors je trouvais ça incroyable. Merci à vous.
Vous avez le jour déjà?
Est-ce que vous savez?
Alors oui, le 15 juillet.
Ludovic, en juillet.
J'ai pas la rue.
Est-ce que vous savez? Oui, voilà, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que vous savez quel est votre segment de...
Non. Alors, on pourra courir entre 200 et 300 mètres. Alors, je vais tout faire pour que ce moment soit le plus
et vous
long
vous
de ma vie.
Alors, ça, on
vous
va en parler.
Pour ça ou pas?
Franchement, alors moi, je m'entraîne tous les jours, je marche avec mon métier. Donc, on va pouvoir marcher. Donc, du coup, je réserve une ou deux surprises sur ce petit.
Alors, on va en parler, justement. Faire un petit tease et on espère que vous nous donnerez quelques billes. Mais juste avant, on va aller retrouver Julien Richard, journaliste RMC. Vous avez passé un peu de temps sur le Bélem, Julien. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez eu cette chance. Tout le monde vous envie sur le plateau. Racontez-nous un petit peu l'arrivée du Bélem sur le Vieux-Port. C'était quand même un grand moment, j'imagine.
C'est des images assez impressionnantes et un peu comme l'arrivée d'une transatlantique, c'est vrai, avec cette nuée d'embarcations autour du Bélem. C'était très, très impressionnant. Il y avait 1024 bateaux qui étaient enregistrés donc pour cette parade nautique qui a duré à peu près toute la journée dans la rade nord et la rade sud. Donc quand on arrive effectivement pour bien passer à monter à l'abordage presque du BLM, c'est assez fou parce qu'il y avait tous ces bateaux autour. Un cordon de sécurité aussi très impressionnant avec des zodiacs, des forces d'intervention qui délimitaient un périmètre autour du bateau, avec la gendarmerie aussi extrêmement vigilante, vous vous en doutez. Et puis, une fois à bord, on a justement cette vision de tous ces bateaux autour qui est assez dingue, qui prend vraiment au trip. Et il fallait voir aussi les visages de l'équipage, hein, donc des marins professionnels, mais aussi et peut-être surtout des 16 jeunes éclaireurs, hein, donc 16 jeunes qui ont été sélectionnés par les caisses d'épargne pour participer à ce trajet d'Athènes où la flamme est partie, donc du port du Pirée jusqu'ici au vieux port de Marseille. 12 jours de traversée, ils ne se connaissaient pas à la base, ils ont des parcours de vie tous un tout petit peu différents et ils ont vécu une aventure absolument extraordinaire à bord du plus vieux voilier donc en activité, hein, 1896, c'est la même date d'ailleurs que les premiers jeux de l'ère moderne. Donc il suffisait de regarder les embrassades, d'assister aussi aux dernières manœuvres du capitaine Aymeric Gibet, que l'on a eu souvent sur les antennes de BFM, pour se rendre compte un peu de l'atmosphère, de l'importance du moment, de la solennalité presque. C'était un moment assez émouvant, en tout cas à bord du BLM. Et puis ce qui était aussi assez marquant, c'est de voir toutes ces embarcations, ce monde sur les bateaux. On a même entendu des chants de supporters de l'Olympique de Marseille qui ont été repris par quelques membres de l'équipage, quelques jeunes notamment originaires de Marseille.
Parce qu'on sait que demain, il y a une échéance importante pour l'OM qui dispute sa finale. Grand moment pour eux, très en joie aussi après la défaite du PSG. Ça, c'était la petite parenthèse foot. Je ne pourrais pas en dire plus, de toute façon, parce que je ne m'y connais pas beaucoup plus. Mais Julien Richard, juste un dernier mot. Le moment, vous parlez de solennité, le moment où le BLM arrive vraiment dans le vieux port et où Florent Manaudou descend, le premier porteur de la flamme, ce moment-là, vous l'avez senti comment? Il y avait de émotion à bord.
Il y avait beaucoup d'émotions et on le voyait sur le visage d'ailleurs de Florent Manaudou, qui est un athlète très expérimenté, qui a vécu beaucoup de choses dans sa carrière, mais on a senti que c'était un moment très particulier pour lui. Il a pris le temps à l'avant du bateau notamment, hein, de brandir cette flamme olympique. Et en plus, c'était un moment assez dingue visuellement, parce qu'on est arrivé dans le vieux port, avec donc au fond du vieux port des gros nuages lourds qui apportaient même quelques petites gouttes de pluie, et derrière, à l'entrée du vieux port, eh bien le soleil brillait. Donc ça faisait un contraste assez surprenant. C'était un peu presque féerique, et l'arc-en-ciel aussi qui s'est formé juste après l'arrivée du BLM. Donc je sais pas comment on peut interpréter tout ça, mais tout ça a rendu, avec le spectacle pyrotechnique, la patrouille de France aussi qui a tracé les anneaux olympiques dans le ciel au-dessus du vieux port, les traditionnelles couleurs bleu, blanc, rouge également. C'était vraiment une fête réussie et c'est un premier moment marquant pour les Jeux Olympiques. Un moment réussi aussi, populaire et festif. Et c'est vrai que ces derniers mois, hein, dans toute cette préparation vers les Jeux Olympiques, ça a été rare d'avoir ce genre de moment-là. Donc c'est un vrai lancement en tout cas, et c'est ce que l'on a ressenti aussi chez les organisateurs, hein, d'avoir ce moment de cohésion et ce moment de fête qui était assez important et très attendu.
Merci beaucoup Julien Richard, merci de nous avoir fait vivre ce moment assez exceptionnel. On le disait donc sur le plateau, on est toujours avec Ludovic Franceschi, vous êtes donc agent de propreté, vous êtes éboueur, vous avez des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux parce que chaque jour vous faites vivre votre métier, vous le faites découvrir aussi aux Français. Vous avez donc été sélectionné pour porter la flamme, racontez-nous comment ça s'est fait, c'est vous qui vous êtes inscrit ?
Alors, j'ai le temps ?
Vous avez le temps.
Alors, en fait, je me suis inscrit et j'ai reçu un mail, on m'a refusé.
Ah.
Ensuite, il y a une collectivité qui m'appelle juste après mon Paris-Marseille, parce que j'ai fait Paris-Marseille à pied, pour ramasser les déchets. Et une collectivité qui m'appelle, qui me dit, Ludovic, on vous a sélectionné pour porter la flamme. J'ai dit, waouh ! La première chose que j'ai pensé, c'est appeler ma maman. J'en ai pleuré, bien évidemment. Ensuite, deux mois après, donc ça, c'était au mois d'octobre, deux mois après, mois de décembre, la ville de Paris qui m'appelle pour me dire, Ludovic, on t'a sélectionné pour porter la flamme. Ah ! Pour le coup, on m'a sélectionné ailleurs. Comment on fait ? On a laissé passer les fêtes et au mois de janvier, on m'a dit, Ludovic, il faut que tu choisisses. Et finalement, j'ai choisi bien évidemment ma ville de cœur, Paris. parce que je m'y donne à fond et je suis tellement amoureux de cette ville. Sachez que Paris n'est pas sale, c'est les gens qui sont sales. Donc arrêtons de jeter par terre. Et c'est ce que je vais représenter moi au bout de cette torche. Et je peux vous garantir que s'il y a un moment où je vais pouvoir marquer le monde, ça sera à ce moment-là. Et je peux pas en dire plus.
Alors justement, alors, petite question sans nous révéler vos surprises. Mais donc, vous dites que vous allez porter la flamme. Vous avez peu d'informations sur le segment durant lequel vous allez porter cette flamme. Mais vous disiez quoi, 200, 300 mètres?
Oui.
Voilà, pour porter la flamme, avec quelques surprises. Mais l'idée va être pour vous de passer ce message, justement.
Oui, complètement. Il va y avoir plus de 4 milliards de personnes qui vont regarder. Donc je vous dis, s'il y a un moment où il faut marquer le monde, ça sera là.
Pour un message de propreté, respecter les villes.
Exactement.
Pour en faire des beaux. Ils vont vous faire une rue nickel. Vous n'aurez rien à ramasser. Hein.
Ah, vous savez.
Son village Potemkin, ils vont nettoyer.
Ils ont intérêt.
Suffit avec une ville dans le monde aussi.
Pour constater que Paris n'est pas si sale que ça. Hein. J'étais en vacances à Naples la semaine dernière, au milieu de trésors magnifiques.
Vous mettez la barre très haut.
Ça fait le charme de Naples aussi.
On parle quand même d'une ville classée au patrimoine de l'UNESCO. On ne parle pas d'un patelin de campagne.
Pourquoi c'était si important pour vous d'être sélectionné, de participer à cet événement?
Ben en fait, je suis le représentant du vivre ensemble. Et c'est la propreté de notre planète, mais on en a qu'une planète, on n'en a pas deux. Donc arrêtons de la pourrir, pardon pour le terme. Voilà, c'est pour ça que je vais porter la flamme. Et ça sera aussi pour moi de sensibiliser au maximum les jeunes générations pour l'avenir. Vous savez, nous sommes toutes et tous éphémères. Et ce message, la propreté de la planète, lui, il doit être éternel. Alors, main dans la main, soyons ensemble pour tout ça. Et là, ça sera de flamme en flamme.
Vous porterez le bob ou pas? Parce que c'est un peu votre marque de fabrique.
Jules a porté une casquette.
Donc, surprise. Parce que sinon, c'est quoi? C'est un maillot?
Oui, tout à fait. Avec un
pantalon. Il y a une tenue réglementaire.
Oui, tout à fait. Bon. Ça sera tous pareil.
Avec marqué Paris dessus, ce qui fait quand même que vous avez trois porteurs de flamme olympique avec un maillot marqué Paris qui sont fait applaudir par des Marseillais. C'est peut-être ça le principal événement de la soirée.
Alors, on est en ligne avec une autre porteuse de la flamme, Miss Martini. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes drag queen marseillaise. Vous allez porter la flamme olympique à Digne-les-Bains. Ce sera quand d'ailleurs, ça? Ce sera samedi, c'est bien ça?
Tout à fait, bonsoir.
Bonsoir, comment vous avez vécu la cérémonie aujourd'hui?
C'était incroyable, alors j'ai été en interview quand même un peu toute la journée, donc j'ai pas pu tout voir malheureusement, mais de ce que j'ai pu voir, c'était vraiment magnifique.
Vous avez pu vous mettre dans la peau, en quelque sorte, de Florent Madou, parce que vous allez devoir faire comme lui, porter la flamme sur 200, 300 mètres, sans la faire tomber, sans l'éteindre. Lourde responsabilité.
Tout à fait. J'espère ne pas faire brûler ma perruque.
Vous allez la garder, la perruque?
Ah ben, c'est le but. L'idée, c'est d'être quand même moi, malgré tout, même si je vais avoir l'uniforme des porteurs et porteuses de flamme olympique, je vais quand même venir avec ma perruque, mes talons et mon meilleur maquillage.
Est-ce que pour vous, justement, l'idée, ça va être aussi de porter un message? Je ne sais pas si vous avez entendu le reste de l'émission, mais on est aussi en plateau avec Ludovic Franceschet, qui est éboueur à Paris, qui disait qu'il va porter la flamme. Et lui, il disait, ben moi, pendant les 200-300 mètres que je vais avoir, qu'on va m'accorder, je vais réserver quelques surprises pour lancer des messages autour de la propreté de la ville de Paris. Est-ce que vous aussi, vous vous dites, voilà, vous vous sentez investi aussi d'une mission, il va falloir porter un message?
Bien évidemment, moi je suis la toute première drag queen de l'histoire, du monde, de l'humanité et de l'univers à porter la flamme olympique. Et donc c'est vraiment important, c'est un challenge, c'est vraiment de la nouveauté puisque pour une fois, il va y avoir une visibilité des personnes LGBTQIA+. À travers moi et l'autre drag queen aussi qui portera à Paris la flamme.
Et on vous souhaite bonne chance alors. Ce sera donc ce samedi à Digne-les-Bains. On suivra ça avec attention. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. Je voulais qu'on revienne quand même sur l'une des séquences marquantes, c'est l'allumage du chaudron olympique. Par qui? Par Jules.
Par Jules.
Ça a surpris un peu tout le monde, parce que certains se disaient c'était Zidane, mais non, c'était Jules. Grande star, pas que marseillaise, hein, planétaire. C'est le deux... Alors, vous faites la moue, mais je vous assure que c'est le deuxième chanteur français le plus écouté dans le monde. Après Yana Kamoura, figurez-vous. Allez, on regarde la séquence. Voilà, c'était l'invité surprise parce que jusqu'au bout, on avait gardé la surprise, on ne savait pas. Il avait sa capuche d'ailleurs sur la tête jusqu'au bout pour ne pas qu'on devine qui il était. Vous le connaissiez tous, Jules, sur ce plateau?
Oui.
Bah oui, quand même.
Oui, non. Quand même. Ah.
Non.
Son œuvre, moins, voilà. Mais lui.
Non, parce que moi, j'écoute de la musique classique, chacun son truc.
Ça va devenir du classique, malheureusement.
Ça va.
Quand même pas.
Ça va.
Ça va devenir du classique, malheureusement. Mais
j'attends. J'attends le verdict du futur. Et honnêtement, je peux avoir tort. Les gens avaient beaucoup tort sur Gabriel Fauré, mais malgré tout, c'est pas ce que j'écoute. Et donc, non.
Et vous n'aviez jamais entendu parler de lui?
Non.
Donc j'imagine une petite déception quand vous avez, avec tout ce suspense.
Écoutez,
autour de...
J'étais persuadée que c'était quelqu'un qui visiblement avait une signification pour Marseille, et donc ça, je trouvais ça très bien. Mais je ne savais pas qui c'était, je n'ai jamais entendu. Mais si ça peut vous faire plaisir, je n'ai jamais entendu Aya Nakamura non plus.
Ah. Bon voilà, il va falloir vous mettre à la page, Anne-Elisabeth.
C'est fait pour ça, les Jeux Olympiques.
C'est fait pour ça.
C'est fait pour rapprocher.
Olivier, effectivement, en tout cas, c'est un vrai symbole de Marseille, mais peut-être que pour les Jeux, d'ailleurs, on a senti une petite déception à force d'avoir fait le très gros teasing sur Zidane, qui aurait été effectivement l'image de Zidane allumant la flamme. Je pense qu'elle aurait fait la une de plein de journaux dans le monde entier, parce qu'effectivement, ça reste quand même une figure. Et le foot est quand même encore quelque chose qui rassemble beaucoup. Donc je pense qu'à force d'avoir fait le teasing, peut-être qu'ils ont créé la petite déception. Il n'y aurait pas eu tout ce teasing sur Zidane. Peut-être que
Zidane, ce sera à Paris.
La flamme n'est pas encore à Paris. Zidane, on peut le retrouver parce qu'en effet, comme Platini pour les Jeux de 92 à Albertville, Zidane, c'est l'un des plus grands champions et en effet de notoriété mondiale. Je pense qu'il y a une dimension marseillaise. C'était vraiment la fête de Marseille. Zidane n'a pas joué à Marseille. Ça a été l'équipe de France, ça a été Bordeaux, ça a été la Juve, ça a été le Real, mais bon. Et puis, même s'il est Marseillais, puis c'est vraiment champion du monde, Zidane.
Il est la deuxième chose, c'est qu'il y a une notion de Marseille, c'est très important.
Bien sûr,
tout de même.
C'est pour ça qu'on le retrouvera plus tard, sans doute. Et puis il y a une dimension marketing. Moi, je suis frappé de voir que la dimension réseaux sociaux mondiaux, c'est vrai de quelqu'un qui fait 500 000 sur TikTok et Instagram, c'est vrai pour Aya Nakamura, c'est vrai pour Jules. La lecture marketing des organisateurs des Jeux Olympiques, elle est
partout.
Réseaux sociaux.
Bah, on voit la flamme qui sort de la malle Louis Vuitton. On voit en fait tout ce qu'on a vu, et c'est toujours siglé de quelque chose. Même les jeunes du MBLM, on apprend qu'ils sont siglés.
Tradition olympique.
Non, mais par contre, malgré tout, si, quand même. Malgré tout,
les Jeux Olympiques, c'était des amateurs. Ça ne devait avoir. C'est un peu perdu. Ça a beaucoup changé.
Oui.
Aucun intérêt commercial. Rappelons qu'il y a plus de 2500 ans, c'était aussi religieux puisque c'était dédié au dieu Apollon. Je sais bien qu'on a beaucoup changé, mais même si on pense aux Jeux Olympiques de 1924. C'était tout de même autre chose.
Bien sûr, mais les Jeux Olympiques et grecs, il y avait des offrandes, il y avait du commerce, c'était un rassemblement tous les 4 ans qui était aussi économique. On faisait même des statues pour ceux qui s'étaient dopés pour faire le mur de la honte. Donc vous voyez, on était déjà...
Pierre-Édouard Magnan.
Est-ce qu'on va vraiment regretter de ne plus se rouler dans le sable entre lutteurs nus sous les yeux de juges en toge? Je sais que c'était toujours mieux avant, mais pas toujours. Moi, je pense que j'ai jamais dû l'entendre, mais je le connaissais de nom, j'ai quand même entendu.
Et vous connaissez l'expression « le J, c'est le S ».
Bah oui, utilisé Gabriel Attal.
Gabriel Attal qui a tweeté « le J, c'est le S, la flamme est arrivée, que la fête commence ». Le J, c'est Jules, le S, c'est le sang. Parce que les Marseillais, ils disent souvent ça.
Les jeunes, maintenant, voilà, ça, c'est devenu.
Tu es mon sang, c'est ma famille. Quoi.
Je
l'utilisais aussi. Voilà.
Pas limiter les Jeux Olympiques aux seuls sportifs. Je pense que là aussi, il y a une démarche volontaire après Jules ou d'autres, j'en sais rien, mais il y a aussi le dire de ne pas la limiter uniquement aux sportifs et d'élargir le spectre. C'est peut-être aussi du marketing, mais aussi une dimension. Et après, voilà, c'est la fête de Marseille. On a fait la fête de Marseille.
On va
à Marseille, on les met liés régulièrement.
Justement,
c'est vrai. Ils sont très heureux à Marseille et c'est une très bonne chose.
Guillaume Fard, que vous connaissez bien, du service police-justice à BFM TV. Cette fois-ci, vous êtes à Marseille. Vous avez suivi toute la journée les festivités. Donc, merci de veiller tard pour nous, Guillaume. Le bilan, d'un point de vue sécurité, tout s'est bien passé aujourd'hui?
Oui, le bilan est très bon. Et tout le monde était effectivement, non pas inquiet, mais peut-être un peu anxieux que cela se passe bien, parce que c'est un événement qui est regardé de près par le monde entier. Alors, on n'est pas aux 1,5 milliard de téléspectateurs de la cérémonie d'ouverture du 26 juillet prochain, mais tout de même, c'est le démarrage de toute la séquence qui se terminera le 8 septembre avec la fin des Jeux Paralympiques. Et donc, il fallait que ça se passe bien, parce que d'abord, il y a l'arrivée de la femme, et ensuite, il y a aussi le fait que c'est un test. On rôde des techniques, des méthodes, notamment de gestion des flux, de gestion des personnes, dans la perspective du 26 juillet prochain. Et de ce point de vue-là, c'est globalement une journée réussie, en tout cas, la tonalité du côté de la place Beauvau est plutôt satisfaisante parce que ce premier événement, test, qui était l'arrivée de la flamme à Marseille, s'est bien passé. Mais c'est le début d'une très longue séquence qui va durer maintenant 4 mois.
J'allais dire, est-ce que le plus difficile, c'est pas ce qui va arriver ces prochains jours? Maintenant, la flamme qui va déambuler dans les rues, là, ça va être presque plus compliqué à sécuriser?
Ah mais jusqu'au 26 juillet et après jusqu'au 8 septembre, il n'y aura pas de ouf de soulagement du côté de la place Beauvau, mais vous franchissez chaque et après l'autre, si on peut prendre une métaphore athlétique. Donc effectivement, à partir de demain, il y a le relais de la flamme. Avant qu'elle n'arrive à Paris le 14 juillet, elle va partir partout en France métropolitaine, en Corse, elle va partir outre-mer. Il y a quand même une soixantaine de villes étapes et autant de difficultés à anticiper pour protéger la flamme et les porteurs de la flamme. Et ce qui est aussi difficile, c'est que pendant toute cette période jusqu'au 14 juillet, il y a d'autres événements majeurs qui ne sont pas liés aux Jeux Olympiques. Je pense aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement de Normandie le 6 juin prochain, par exemple, ou le Tour de France. Et il faut assurer la sécurité d'événements qui sont des événements majeurs, avec un retentissement international dans le cas du 80e anniversaire du débarquement. Et en même temps, assurer la sécurité des Jeux. Donc ça va être difficile, mais c'est la raison aussi pour laquelle il y a autant de policiers et gendarmes qui sont mobilisés et qui ne prendront pas de congé une fois par siècle, donc une fois dans leur vie. On leur demande de faire un effort assez significatif.
Merci beaucoup, Guillaume. Je vous laisse retourner à votre pastis, que vous buvez évidemment avec modération.
Sans alcool,
évidemment. Merci beaucoup, Guillaume Fard. Edgar Beckett avec nous. Justement, on va évoquer le programme de demain et des prochains jours. Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Eh bien, demain, la flamme va littéralement faire le tour de Marseille. Regardez sur cette carte, la flamme va passer par les lieux emblématiques de la cité phocéenne. Elle va partir à 8h20 de Notre-Dame de la Garde. La flamme passera notamment par le palais du Pharo ou encore le Dôme avant une arrivée au stade Vélodrome en début de soirée. Beaucoup de personnalités vont porter cette flamme. Le premier à porter cette flamme, ce sera Basile Boli, défenseur mythique de l'Olympique de Marseille dans les années 90. Au cours de cette journée, sportifs, animateurs, humoristes vont se relayer. Tony Parker, Camille Combal, Soprano, Jean-Pierre Papin et Didier Drogba, qui sera lui le dernier porteur jusqu'au Vélodrome. Didier Drogba, ancien joueur de l'OM. Il y aura aussi des inconnus qui vont porter la flamme. C'est le cas d'Albert, 101 ans. Ce sera le doyen des porteurs. Il en rêvait. BFM Marseille l'a rencontré. Écoutez.
La flamme olympique, c'est trop beau, ça. C'est un rêve pour moi. Je le rêve. Mais ça me donne rêver, là, vous voyez. Et je ne rêve pas. C'est bien vrai.
C'est émouvant, Albert, 101 ans, qui va faire partie, comme vous, des porteurs de la flamme. Il y a Marseille, mais il n'y a pas que Marseille. La flamme, après, va faire le tour de France métropolitaine et pas seulement.
Oui, c'est ça. Dès vendredi, on sera le 10 mai. La flamme commencera son tour de France par le département du Var. Et je vais vous donner quelques dates, quelques passages qui seront emblématiques. Déjà, le 31 mai, elle passera au Mont-Saint-Michel pour son étape dans la Manche. La flamme passera aussi dans les territoires d'outre-mer entre le 9 et le 17 juin avec un premier passage... Guyane, vous le voyez sur cette image, la ville de Cayenne. La flamme passera à Cayenne donc le 9 juin prochain. Un relais qui va se terminer le 26 juillet, date du début des Jeux Olympiques. La flamme arrivera alors à Paris pour l'allumage de la vasque au Jardin des Tuileries.
Merci beaucoup Edgar Becquet. Voilà pour le programme. On voulait réécouter une petite réaction d'Emmanuel Macron aujourd'hui sur ce qui s'est passé. Il était à Marseille. Je vous donne... Ah, vous souhaitiez dire un moment? Non, allez-y.
Oui, non, c'est juste que je soutiens beaucoup, énormément, vous savez très bien, les éboueurs à Marseille et tous les éboueurs en France, parce que tout ça, ça va ramener du monde, mais aussi les incivilités, et toutes ces incivilités vont être enlevées par toutes ces personnes qui travaillent en tant qu'éboueurs et toutes les personnes dans la propreté. Voilà, gros soutien, énorme.
Vous soutenez les éboueurs en grève à Marseille, ils sont une cinquantaine.
Je soutiens mon métier, je soutiens l'humain et la planète, je soutiens les deux, voilà. Les deux ne vont pas sans l'autre.
Et puis des grèves au bon moment. Ah, quand le prestige de la France est trop en jeu quand même.
Ça s'appelle le rapport de force.
Ouais, après, mais il faut reconnaître que ça marche
après,
bien ces dernières semaines.
Il faut faire la fête aussi, il faut faire la fête.
Il y a l'intérêt supérieur de la nation.
Bon, en attendant, Emmanuel Macron a suivi évidemment l'arrivée de la flamme sur le sol français depuis Marseille. On écoute le président.
C'est la fin de plusieurs années de préparation et j'ai avec beaucoup d'émotion le souvenir encore de juillet 2017 quand on gagne à Lausanne, et on était là en septembre, quelques semaines après, il n'y avait rien qui était prêt. Et aujourd'hui, voilà, la flamme arrive, les Jeux arrivent et rentrent dans la vie des Français. La flamme est là, les Jeux olympiques et paralympiques sont là dans la vie du pays, dans la vie de la France, on peut être fier.
C'est un peu ça, non? La flamme, maintenant, tout le monde s'est un peu pris au jeu. C'est arrivé en France et les festivités sont lancées.
Si on le sait, puis j'ai envie de dire, tous ceux qui râlent à la première médaille d'or française, tout le monde d'un seul coup trouvera que c'est formidable. Après, ce qui reste intéressant, et je l'ai vu hier, sondage d'une excellente chaîne d'info continue, il y a quand même 46% des Français, en fait, qui sont ni pour ni contre, qui sont indifférents.
Oui.
Et donc, ça, c'est un sujet, finalement, c'est eux les majoritaires.
Mais 52% qui se disent fiers. Courte majorité.
On est quand même sur quelque chose qui est d'Olympiade en Olympiade, le soutien des populations est de plus en plus faible. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'on a décerné Paris et Los Angeles en même temps, parce qu'en fait, il n'y a plus de ville candidate. Donc, ce soutien, il n'est pas aussi fort que ça. Alors oui, aujourd'hui, il y a un effet festif qui est important, mais ça ne veut pas dire quand même qu'il n'y a pas une vraie réforme à faire de l'olympisme, parce qu'aujourd'hui, le soutien des populations n'est plus ce qu'il était.
Bien sûr, dans les pays occidentaux et les grandes villes qui ont déjà eu un passé olympique, vous allez voir arriver sur le marché, si j'ose dire, Dubaï, le Qatar, d'autres pays émergents qui vont dire à un moment donné, on va prendre les Jeux parce qu'on a les moyens de les payer, parfois des régimes autoritaires pour les organiser, ce qui évidemment c'est plus simple, et puis l'envie de récupérer cette invention pour nous.
Mais c'est vrai que même eux, ils sont moins candidats ces derniers temps. Et puis,
L'Arabie Saoudite sera candidate. Justement, vous m'avez fait ma petite transition, Olivier, vous parliez de Los Angeles. Alors, est-ce que vous avez vu ces images circuler de Tom Cruise? On va les voir. C'était la nuit du 25 au 26 avril dernier. On voit Tom Cruise dans les rues de Paris, proche de l'Arc de Triomphe, pardonnez-moi, sur sa moto, voilà, cheveux au vent. Beaucoup se sont dit, tiens, il est en train de tourner un nouveau Mission Impossible. En fait, non, il est en train de tourner la séquence de clôture des JO de Paris 2024. Parce que la tradition veut que généralement on fasse une petite allusion à la prochaine ville haute. Et ce sera en l'occurrence Los Angeles. Voilà.
Et vous pensez qu'il aura un casque? Parce que là, il n'en avait pas.
Jamais.
Mais c'est Tom Cruise. Il n'a pas besoin de casque.
Los Angeles, c'est une très rare exemple. Les Jeux de 84 à Los Angeles sont un très rare exemple des Jeux Olympiques qui non seulement n'ont pas perdu d'argent, mais en ont rapporté. Alors, il y aura des leçons à prendre de Los Angeles parce que vu l'état du budget des Jeux Olympiques en ce moment et de ce qui va autour, on n'est pas tout à fait encore à cette performance.
Mais là aussi, Elisabeth, c'était l'argent de Coca-Cola, c'était l'argent de la Silicon Valley, c'était ce que vous dénonciez tout à l'heure.
Silicon Valley en 1984.
Oui, enfin,
c'est relativement réduit.
Voilà, c'était la Californie du progrès.
Le premier MAC, c'est après les Jeux Olympiques en 1984.
C'était déjà cette Californie-là.
C'était surtout un homme extraordinaire qui s'appelle Peter Huber-Roth et qui a organisé ces Jeux. Ils ont donné les Jeux, l'organisation des Jeux à des gens qui savent le faire, c'est-à-dire un mélange de sportifs et de patrons de grandes entreprises. Et ça a marché. Et depuis, il n'y a plus, je crois, de Jeux qui ont été bénéficiaires.
À cause de Coca-Cola.
C'était un peu différent.
Sébastien Coe avait trouvé aussi un beau cocktail à Londres.
J'aurais pu en parler tout à l'heure, mais effectivement, Londres, c'était très différent. Il n'y avait pratiquement que des sportifs. Sébastien Coe, c'est d'abord un champion de course, et ensuite, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'organisation du sport. Il n'y a pas eu de jeux politiques sur les Jeux Olympiques. Ils ont été gagnés par le truc qui ont été gagnés au moment de la mairie de Boris Johnson, mais à l'époque, il était maire et il voulait surtout faire parler de lui. Mais il y a eu une espèce de, je dirais, d'une part de cohésion et d'autre part, nous on passe notre temps à dire on est fiers, on va être fiers, on va être très très fiers. Les Anglais, c'est pas du tout ça. La BBC a fait un feuilleton qui est passé pendant quelques mois avant les Jeux Olympiques et qui était sur comment ils étaient en train d'organiser la couverture des Jeux Olympiques et comment ils allaient se planter. Et c'était fait in-house, c'est-à-dire que c'était avec des acteurs comme Hugh Bonneville, qui est le comte de Crowley dans Downton Abbey et tout ça. C'était extrêmement drôle. Et donc, c'était en gros en train de dire, vous savez, on va totalement se ramasser.
L'autodérision.
Oui, et c'était vraiment, ça prévoyait ça. C'est tout ce qui peut vraiment se ramasser avec des informations de l'intérieur, en plus. Et en fiction. Et quand les jeux ont commencé à se faire, il y a eu cette espèce d'idée d'abord de tout concentrer au même endroit dans la ville, à l'est de la ville, parce que ça consistait justement à créer des stades supplémentaires, des logements supplémentaires et tout ça, mais surtout tout ce qui a fait les cérémonies a été quelque chose qui était essentiellement britannique. On voulait pas faire de l'international, on voulait pas faire des choses qui auraient pu plaire à tout le monde. Il y a eu un ballet entier.
Ça a été un gros succès, les Jeux.
Qui était un ballet pour chanter la gloire de la sécurité sociale britannique. Il faut tout de même imaginer ça. Avec Lord Voldemort qui arrive parce que c'est une création de J.K. Rowling. Et puis le clou, évidemment, Bond, c'est la reine d'Angleterre qui rencontre James Bond à Buckingham Palace, qui est le vrai Buckingham Palace, avec ses chiens, les corgis, qui sont ses vrais chiens. Et puis, il y a évidemment un cascadeur qui prend sa place pour rentrer dans un hélicoptère. Qui descend
en parachute
et elle était dans les coulisses et on la voit arriver avec les caméras.
C'était quand même quelque chose qu'elle se prête au jeu.
Elle adore faire ça.
Une merveille du monde. Je pense qu'il faut qu'Elisabeth organise les prochains JO de Los Angeles parce que on a trouvé la solution.
Et l'ours pas éloigné.
Merci à vous, Ludovic Francis, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous porterez la flamme le 15 juillet à Paris. Vous allez vous entraîner d'une certaine manière d'ici là ou pas tellement? Vous aviserez.
Un peu, mais on s'entraîne déjà quand on est éboueur.
Comment on s'entraîne?
On marche beaucoup. Oui. 13 à 14 km par jour.
C'est déjà
pas
mal.
C'est beaucoup. Bon, ça m'empêche pas d'avoir un petit bidon.
Merci beaucoup. Merci et à vous bonne chance. Aussi. Donc,
prenez soin de vous. Vous êtes passionnante.
Pour cette mission. Merci à vous.